France Inter, le 18-20.
Alors qu'une partie des Gilets jaunes appelle à l'acte 5 de la mobilisation demain et que des ronds-points restent occupés un petit peu partout en France, on va s'intéresser ce soir à un autre mouvement, celui des lycéens. Car aujourd'hui encore, une centaine d'établissements ont été touchés, si l'on en croit le ministère de l'Éducation nationale. Ce mouvement qui dénonce la réforme du lycée, Parcoursup, mais aussi le futur service national universel, étonne en partie les observateurs avertis car il ne ressemble pas toujours aux mouvements habituels. Comme le soulignait une enquête du journal Le Monde hier, il n'est pas parti des traditionnels bastions lycéens des centres-villes habitués aux manifestations. Il secoue des établissements professionnels, des lycées de zones rurales, périurbaines, mais aussi de banlieues pas forcément habituées à se mobiliser de cette façon. Les chefs d'établissement l'ont noté, ils ne retrouvent pas toujours les représentants lycéens désignés comme interlocuteurs sur ce mouvement. Toujours d'après Le Monde, ce mouvement ne correspond pas à la cartographie habituelle des mobilisations de jeunesse. Est-ce à dire qu'il se rapprocherait de celui des Gilets jaunes? Les enfants des Gilets jaunes seraient-ils en pointe dans cette mobilisation et quelles sont précisément les raisons de la colère? On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec nos invités. Louis Boyard, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'UNL. Nathalie Mons, professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise, bonsoir. Vous êtes présidente du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Et avec nous, et je l'en remercie, Jean-Marc Huard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire au ministère, évidemment, de l'Éducation nationale. Pour joindre nos invités, un numéro, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Tout de suite, direction le standard de France Inter. Claire nous appelle de Champagnole, c'est dans le Jura. Bonsoir Claire, vous êtes professeure, c'est ça ?
Oui, bonsoir, je suis professeure donc au lycée Paul-Émile Victor à Champagnole, c'est un petit lycée de zone rurale. Je suis également parent d'élève, j'ai un élève en enfant en seconde qui ne pourra pas l'an prochain choisir la spécialité qui l'intéresse, en l'occurrence sciences de l'ingénieur. Le rectorat refuse pour le moment de nous donner la spécialité sciences de l'ingénieur, alors que depuis 20 ans, une équipe formait avec succès les élèves. L'année dernière, on a eu 100% de réussite au bac dans cette filière, dont 75% de mentions. Le rectorat refuse également de nous donner par exemple l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ce qui fait que nos élèves qui autrefois allaient dans les filières L ne pourront pas l'année prochaine avoir trois spécialités cohérentes. Ils vont faire littérature, ils vont faire anglais, puis après ils sont obligés de prendre maths.
Donc ça c'est la réforme du lycée, Claire, qui vous chagrine.
Qui instaure un bac des villes et un bac des champs. Et nous, on a vraiment l'impression d'être dans la souffrance, dans tous les sens du terme.
Et ça veut dire que les gens se mobilisent, enfin vous mobilisez contre cette réforme ?
Oui, on se mobilise. Alors on a déjà fait plusieurs manifestations. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations. Lundi, il y a un mouvement, alors à l'appel des lycéens, il y a un mouvement. Mardi, on sera en grève. Et voilà, on refuse cette carte de formation parce que les élèves n'ont pas le choix. Moi, je suis parent d'élèves, j'ai reçu un document du ministère m'expliquant que la réforme allait donner plus de choix à mon fils. Elle lui donne pas plus de choix, elle lui donne moins. On a actuellement des élèves qui peuvent faire spécialité allemand, ils ne pourront plus. On a actuellement des élèves qui peuvent faire sciences de l'ingénieur, ils ne pourront plus. On a actuellement des élèves qui font option EPS, ils ne pourront plus. On a actuellement des élèves qui font géopolitique, ils ne pourront plus. Donc ils n'ont pas plus de choix, ils en ont moins. Donc c'est vraiment les lycées, et tous les lycées des zones rurales sont pareils. Hein. Il y a eu le même combat à 30 km d'ici. Parce que, en fait, les spécialités sont calculées en fonction du nombre d'élèves et pas en fonction de l'intérêt des élèves. Et du coup, ça donne des choses complètement incohérentes, quoi.
Une dernière question, Claire. On comprend que c'est la réforme du lycée qui pose problème. Mais on a entendu que certaines personnes ont fait un lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous, ça vous paraît incongru ou effectivement, ça peut être lié?
Non, parce que dans les revendications, dans les zones rurales, on a perdu tous les services publics, on n'a plus de gare, on n'a plus de ligne de train, on n'a plus de médecins, on est obligé de se déplacer pour tout, nous on a perdu l'hôpital, on a perdu les urgences, et là en plus on va perdre des sections dans le lycée. Donc ça, c'est, voilà, on est une souffrance.
Merci Claire pour cette intervention, pour cette entrée en matière très... très concrète, qui donc remet en cause cette réforme. Jean-Marc Huard, vous qui êtes directeur général de l'enseignement scolaire, qu'est-ce que vous lui répondez à Claire? C'est argumenté, hein, tout ce qu'elle vient de nous dire.
Alors, je ne connais pas la situation particulière
de Champagnole,
de l'établissement de Champagnole. La réforme du lycée, elle a pour objectif de donner plus d'égalité, plus de liberté aux lycéens dans le choix de leurs enseignements.
Ce n'est pas ce qu'elle a l'air de nous dire. Hein.
Pour rappeler un petit peu les fondements, aujourd'hui, on est dans un lycée où on a, en voie générale, trois séries, la série L, la série ES, la série S. Demain, c'est-à-dire à partir de la rentrée 2019, il n'y aura plus ces trois séries, mais il y aura un choix aux élèves, à partir d'un bloc d'enseignement commun que tous les élèves auront, qui représente d'ailleurs la majorité, hein, c'est 16 heures sur 28 heures, les élèves devront choisir 3 spécialités en classe de première et 2 spécialités en classe de terminale. Parmi un panel qui existe au niveau national de 12 spécialités. Alors aujourd'hui, toutes les spécialités, vous savez, aujourd'hui, il y a à peu près 15% des établissements qui n'ont pas les 3 séries que je viens d'évoquer. Eh bien demain, il y aura davantage d'établissements qui pourront avoir ce que l'on appelle les 7 spécialités socles, c'est-à-dire les plus courantes, et puis des établissements, et notamment ceux qui sont les plus éloignés et les moins attractifs, qui pourront avoir des spécialités moins courantes, plus rares, par exemple le numérique et sciences informatiques, qui est une grande nouveauté de la réforme et que les élèves pourront prendre à ce moment-là.
Et pourtant, quand on écoute Claire, elle nous explique que son fils, par exemple, n'aura pas le choix, il va falloir faire des kilomètres, il n'y aura pas tout sur place comme c'était le cas jusqu'à présent.
Alors il y aura encore une fois davantage de spécialités que l'offre, et encore une fois, sur ce cas particulier, il faut regarder un petit peu plus globalement comment les choses se passent, mais on aura un système dans lequel les élèves chaque élève pourra composer son propre menu en quelque sorte d'enseignement en fonction de ses compétences, en fonction de ses souhaits également, dans un panel qui sera plus important qu'il ne l'est aujourd'hui.
Louis Boyard de l'UNL, qu'est-ce que vous répondez-vous à Claire qu'on a entendu tout à l'heure?
Moi, ce que je réponds, c'est que je vois, Monsieur Huard, vous avez pu nous expliquer la théorie. Maintenant, Claire nous a expliqué quelle était la pratique. C'est bien beau de pouvoir dire que tout le monde aura le choix. Là, elle vient de nous expliquer concrètement quoi cette réforme va accroître des inégalités, mais aussi briser des avenirs. Puisque la réforme du lycée, elle est aussi faite pour aller avec Parcoursup. Là, elle vient d'expliquer que son fils voulait faire sciences de l'ingénieur. Il ne peut pas faire sciences de l'ingénieur et donc il n'aura pas l'attendu sur Parcoursup. Et donc finalement, seulement parce que le rectorat a refusé d'ouvrir une spécialité sur place, et ben c'est tout son projet d'avenir qui a été remis en cause. Sauf que c'est pas clair aujourd'hui qu'il y a des moyens de mettre tout ça en pratique, c'est vous. Et donc maintenant, moi ce que je dis, c'est il serait temps que le ministère se mette à la pratique, ouvre les séries dans tous les lycées, comme ça on aura l'égalité et on n'aura plus des appels de ce genre-là, qui moi, personnellement, me brise le cœur parce que je sais ce que c'est que d'avoir un avenir qui est totalement remis en cause à cause d'une réforme qui ne va pas dans le bon sens.
Nathalie Mons, qu'est-ce que vous dites, vous, entre ce qu'on vient d'entendre de la part de Claire, qui est à Champagnole, et ce que nous dit Jean-Marc Huard, qui nous dit qu'en fait, il y aura toujours une offre importante pour les élèves.
Ben, je crois qu'au-delà du cas de la réforme du lycée, ça pose vraiment la question de la ruralité et du choix de l'orientation en ruralité. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire vient de finaliser une grosse enquête auprès des jeunes de 18 à 25 ans, et on leur demandait finalement comment ça s'était passé pour eux. Est-ce que dans certains cas, ils avaient dû renoncer, en effet, à des choix d'orientation? Donc, on a quand même 2/3 des jeunes qui nous disent que oui, ils renoncent à des choix d'orientation. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, on voit bien qu'en ruralité, c'est vraiment... Il y a plus de 20% qui nous disent que c'est pour des raisons de proximité des formations. Donc on voit qu'en France, il faut aujourd'hui vraiment qu'on s'attelle à ce problème de ruralité et d'orientation. Alors, je dirais un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que oui, il y a des problèmes d'offres tels qu'on vient de les montrer, mais il y a aussi des problèmes de mobilité. Parce que là, on parle du lycée, mais il y a aussi des jeunes ruraux qui, après le lycée, doivent évidemment poursuivre, par exemple, dans l'enseignement supérieur. Et là, on voit bien qu'il faut soutenir, en fait, cette mobilité, à la fois en termes d'aide à la mobilité, de logement, dans les internats, etc. Je crois qu'en France, on n'a pas encore vraiment saisi l'importance de ces problèmes de mobilité. Ça doit être, là, je regarde justement Jean-Marc Huard, ça doit être un point important des futures politiques d'orientation.
Alors ça, c'est ce que vous dites, ça doit être, mais quand vous regardez la réforme qui s'appliquera aux élèves qui seront donc en première à la rentrée prochaine, est-ce que vous pensez que la réforme commence à répondre à cet objectif ou pas du tout?
La réforme, elle joue sur l'offre de formation, tel qu'on vient de la dire. Donc après, il faudra certainement que le ministère, à mon avis, clarifie l'ensemble des éléments pour qu'on puisse voir vraiment en termes d'offres quel est l'éventail du choix.
Alors je vous repasse la oui Jean-Marc Huard, je vous repasse la on parole est... puis après on repart.
Oui, on est très clairement dans un soutien de la ruralité. Le ministre de l'Éducation nationale a très clairement demandé aux recteurs que il y ait une attention particulière sur les petits établissements. Aujourd'hui, vous avez plein de petits établissements qui ont peu de sections. et qui en l'occurrence n'ont pas aujourd'hui non plus les trois séries. Donc ça c'est le premier axe. Donc la carte des formations et la carte des spécialités doit répondre à cette demande. Et de l'autre côté, je rebondis sur ce que disait Nathalie Mons, il y a aussi une volonté de revivifier tout le réseau des internats qui permet aussi d'avoir une offre qui soit la plus complète dans un espace géographique tout à fait acceptable.
Avec des moyens pour plus d'internats ?
Ah bah aujourd'hui, il y a des moyens inévitablement dans l'éducation. Nous travaillons, et le ministre a demandé qu'il y ait un rapport sur cette question de la revivification des internats. Ça se fait évidemment avec les collectivités territoriales, mais c'est une volonté politique clairement affirmée.
Louis Boyard.
On peut entendre la volonté de prendre en compte les lycées ruraux, mais on parlait justement de la mobilisation et de son état. On voit que ce sont beaucoup les lycées ruraux qui se sont mobilisés, aussi particulièrement les lycéens de seconde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique. Et quand on va discuter avec ces lycéens...
C'est ceux qui seront concernés directement par la réforme.
C'est ceux qui seront concernés directement par la réforme, parce qu'ils comprennent que derrière la volonté, il n'y a pas les faits. Et qu'ensuite, quand on n'a que 5 spécialités dans son lycée, et qu'on ne peut pas aller faire 70 km tous les matins pour aller attraper une autre spécialité, mais en fait on comprend que c'est tout notre avenir qui est remis en cause, et c'est justement ce qu'on dénonce dans la réforme du lycée, c'est qu'il n'y a pas les moyens qui ont été mis, il faut offrir les mêmes spécialités à tout le monde, et comme ça on sera tous égaux et on n'aura pas les problèmes qui ont été décrits lors de l'appel de Claire.
Alors on va partir cette fois-ci en Bretagne, à Auray. Georges est en ligne, bonsoir Georges.
Bonsoir.
Vous êtes un parent, un enseignant ?
Du tout, non, je suis un grand-père. J'écoutais, donc, vous pourrez mettre tous les internats que vous voulez, cela n'empêchera pas que les lycéens sont les enfants de ces gilets jaunes. Et supposer que ces adolescents ne voient pas l'injustice sociale que subissent leurs parents serait soit méconnaître la France, soit faire l'autruche. Donc ces enfants vivent dans un milieu social, et tous les internats ne pourront pas les dissocier de ce milieu social. Donc l'injustice, ils la vivent au quotidien. Voilà, donc je pense pas que ce mouvement lycéen va s'arrêter comme ça, ou s'il va s'effilocher, les lycéens vont garder leur rancœur en eux, comme leurs parents, quoi. Donc c'est reculer pour mieux sauter dans l'avenir.
Mais vous avez vu des mobilisations vers chez vous, vers Auray, dans le Morbihan?
À Vannes, donc j'étais sur un rond-point, et donc il y avait des ronds-points bloqués, et il y avait le lycée Le Sage à Vannes qui manifestait, quoi. Donc c'est dans une zone à Carcado, c'est pas une des plus favorisées de Vannes, hein. C'est une zone d'immeubles, de petits immeubles d'HLM, quoi.
Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire, quand vous voyez le contexte actuel avec le mouvement des gilets jaunes, et que vous voyez qu'effectivement des lycéens dans les secteurs concernés commencent à se mobiliser, vous vous dites pas que la situation est un peu inquiétante ?
On a un contexte qui est sans
pour
doute
vous
différent, hein, de ce qui a pu se passer dans de précédents mouvements lycéens. C'est que parfois le mouvement lycéen, il apparaissait initialement et puis il pouvait entraîner d'autres types de mouvements. Là, on a une forme inversée, c'est-à-dire qu'il y avait le mouvement des gilets jaunes, et puis les lycéens ont en partie rejoint le mouvement. On est dans une situation aujourd'hui où le mouvement est très clairement en baisse, hein, depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, vous parliez d'une centaine ce matin de
lycées perturbés. C'était vos chiffres ce matin ?
Absolument. On est à une soixantaine en fin de journée. On était à 450 en début de semaine. Donc on est dans un mouvement qui effectivement perd en puissance, en tout cas en cette fin de semaine.
Pardon, juste sur la cartographie. Pardon. Est-ce que vous aussi au ministère vous avez constaté que c'était pas un mouvement comme les précédents? C'était pas forcément les mêmes établissements qui se mobilisaient.
Oui, on a regardé, on a des mouvements qui sont, on a les deux types, si vous voulez. On a effectivement des zones rurales, mais on a aussi des zones très urbaines. Quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé et des banlieues, quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans l'académie d'Aix-Marseille, on était principalement sur une mobilisation sur Marseille-Ville, académie de Toulouse, pareil, c'était à Toulouse-Ville. C'était des mouvements aussi, il faut le souligner aussi, qui parfois étaient très violents. Et je crois que la sécurisation des lycéens a vraiment été la priorité. Et je voudrais juste rendre hommage aux chefs d'établissement et aux professeurs qui, tout au long de ces journées, ont assuré et se sont mobilisés pour assurer la sécurité des lycéens.
On a eu de nombreux messages de la part de parents hein, sur cette question de la violence, parce que ça les inquiète et certains se demandent si la seule réponse à un tel mouvement, c'est la répression. C'est une question que posent certains parents. C'est ça la réponse.
Alors. Nous, à cette question-là, nous devons, y compris en tant qu'éducation nationale, apporter aux lycéens un cadre qui est un cadre reposant sur les valeurs de la République et les valeurs de la démocratie. Le ministre a convoqué, en avançant la date qui était prévue initialement, le Conseil national de la vie lycéenne, qui représente une soixantaine de lycéens, qui sont des élus, issus des établissements par un processus qui dure sur plusieurs semaines et qui permet à plus d'un million de lycéens de voter pour leurs représentants. Ils seront réunis lundi dans l'après-midi au ministère de l'Éducation nationale et pourront très librement échanger avec Jean-Michel Blanquer.
Sur cette question de la violence, Louis Boyard, que dit l'UNL ?
Bah, moi déjà, s'il y avait un hommage à rendre, ce serait aussi au lycéen de Mantes-la-Jolie, ce que vous n'avez pas mentionné. Après, j'ai entendu votre hommage auprès des proviseurs et aussi des forces de l'ordre, il me semble, qui ont mis l'ordre.
Bon, on rappelle juste pour ceux qui auraient raté cet épisode que Mantes-la-Jolie, ce sont ces fameuses images de ces lycéens qu'on a vus alignés, les mains derrière la nuque. Geste qu'on retrouve maintenant dans un certain nombre de rassemblements et de manifestations.
Parce qu'on a eu une grande répression. Après, si vous avez donné votre hommage, très bien. Vous considérez qu'ils ont fait votre travail. Maintenant, on attend que vous fassiez le vôtre. C'est-à-dire que vous mettiez en place des politiques qui permettront d'apaiser aujourd'hui ces tensions. Parce que pourquoi convoquer un CNVL quand les revendications aujourd'hui, elles sont déjà claires. C'est-à-dire que les lycéens qui sortent dans la rue, vous pouvez le voir sur les pancartes qui sont mises en place, c'est fin de la sélection à l'université. C'est fin du contrôle continu, fin du service national universel, remise en cause de la voie professionnelle. Et nous, organisation syndicale lycéenne, nous vous avons fait des propositions. Et moi, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que vous tentez de contourner plus ou moins ce mouvement. Là, vous avez dit qu'il était en baisse. Bien évidemment, on va pas mobiliser toute la semaine. Il y a des prochaines dates qui vont continuer la semaine prochaine. Et c'est pas parce que le mouvement est en baisse, selon vous, que le soutien il l'est moins. Donc, moi, aujourd'hui, je vois que vous tentez de contourner le problème ou en tout cas de nier les revendications lycéennes. Et encore une fois, vous ne mettrez fin au mouvement qu'en acceptant les revendications qui sont portées par les lycéens, qui sont déjà très claires.
Un tout petit mot pour répondre à Jean-Marc Huard.
Je voudrais juste dire un mot sur Mantes-la-Jolie. On a eu effectivement des images sur Mantes-la-Jolie dont on peut comprendre qu'elles puissent choquer. Ces images sont l'aboutissement de 3 jours de guérilla urbaine et l'objectif à ce moment-là était véritablement de protéger les jeunes, ce qui a été fait très clairement.
Nathalie Mons, vous qui êtes observatrice de tout ce qui se passe sur cette question de la violence qui revient souvent, d'ailleurs pas que pour le mouvement des lycéens, hein, c'est aussi évoqué pour le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous notez une évolution dans ce qui se passe ?
Oui, sur la violence et puis surtout sur l'intervention de l'auditeur, hein, sur finalement la concomitance entre le mouvement Gilets jaunes et puis, et puis le mouvement lycéen. Ce qui est assez quand même remarquable quand on regarde finalement les revendications. Hein. Et moi, spécialiste de l'éducation, hein, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé les revendications des Gilets jaunes qui étaient parues hein, dans le JDD. C'était que sur l'éducation, on parlait tout de suite de la plateforme post-bac, donc d'orientation. Et là, c'est vrai que on a au cœur finalement des revendications, également cette orientation avec la réforme du lycée, avec Parcoursup. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un dialogue qui est nécessaire parce que nous, quand on regarde quand même les jeunes et quand on les interroge hein, sur l'orientation, les 2/3 d'entre eux nous disent qu'ils sont stressés. Donc je crois que ça, il ne faut pas passer à côté. Pourquoi on a ce niveau de stress aujourd'hui en France ? C'est que lorsqu'on regarde par rapport à ce qui se passe à l'international, en France, on est finalement aujourd'hui, à l'instant T, le pays de l'absence de seconde chance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui pour ces jeunes, parce que la formation initiale, les diplômes, comme c'était dit, hein, les choix qui sont faits, ils vont être déterminants pour l'ensemble après de la vie professionnelle et donc de la vie sociale. Heureusement, on a quand même une grande réforme sur la formation professionnelle, mais et si on regarde par rapport à ce qui se passe par exemple en Allemagne, là il y a plein de secondes chances, il y a plein de formations continues. Donc je crois qu'il faut vraiment entendre hein, ce stress et c'est aussi ce stress qui crée hein, ce forme d'expression qui est aujourd'hui assez violente.
Eh ben, on va entendre justement un lycéen, il s'appelle Victor. Bonsoir Victor.
Oui.
D'où appelez-vous Victor ? Bonsoir.
J'appelle de La Rochelle.
Alors dites-nous, Victor, vous êtes mobilisé, vous ?
Oui, moi j'ai fait les manifestations de lundi, mardi, un petit peu mercredi et vendredi. C'était pour dire que j'ai entendu en début d'émission que le mouvement était un peu assimilé à celui des Gilets jaunes. La question n'est pas de soutenir ce mouvement-là ou pas, en fait. C'est juste qu'il est différent. Il ne parle pas de ces revendications-là. Nous, nos revendications, c'est qu'il y a une réforme qui était censée proposer différents choix autres que les filières. Et ce n'est pas le cas. Déjà parce que la plupart des lycées n'ont pas plein d'options qui leur sont demandées. Et qu'aussi qu'on nous dit qu'on nous allons choisir 3 spécialités. En fait, il faut en donner 5. Et dans les 5, ce n'est pas nous qui les choisissons.
Vous êtes en seconde, Victor ?
Oui, je suis en seconde.
Donc c'est, en fait, vous devez faire un choix pour la rentrée prochaine, c'est ça ?
Non, on a déjà eu lieu un sondage, mais qui n'est que par rapport à mon lycée pour savoir quelles options ils vont demander. Et voilà, mais non, ça devrait être plus tard.
En tout cas, vous êtes un peu perdu par rapport à ce qui va se passer, c'est ça ? Par rapport aux choix qui vous sont offerts.
Mais tout le monde est perdu, même les professeurs. Personne ne sait comment va y avoir, parce que les choix que nous allons devoir faire cette année vont être définitifs par rapport au post-bac. Donc techniquement, notre avenir, notre vie. Donc oui, surtout inquiet, comme la plupart de mes amis, en fait.
Bah, merci, Victor, d'avoir appelé pour nous expliquer tout ça. Jean-Marc Huard, est-ce que cette réforme était vraiment nécessaire aussi vite, sachant que les gens ont l'air un petit peu perdus par rapport aux choix qui leur sont proposés?
Je crois que la réforme était nécessaire parce que le lycée actuel et le baccalauréat tel qu'il est organisé ne permet pas de préparer et ne permet pas la réussite aujourd'hui suffisante dans l'enseignement supérieur. Donc tout le pari, il est là. Le pari, il est là de faire un lycée qui puisse permettre aux jeunes d'être mieux préparé vers l'enseignement supérieur et donc de faire un parcours de choix de spécialité, et puis ensuite ces spécialités offrent un panel, et je voudrais rassurer Victor, le choix de ces spécialités va lui donner un panel de possibilités dans l'enseignement supérieur et non pas une filière de l'enseignement supérieur comme on l'entend parfois. Vous avez des compositions de spécialités, 3 en première, 2 en terminale, je vous le rappelle, qui ouvrent des champs. Mais l'approfondissement de ces spécialités au fur et à mesure entre la première et la terminale permet véritablement de mieux se préparer ensuite à l'enseignement sup.
Toujours pas d'accord, Louis Boyard ?
Bah, en tout cas, je suis en accord pour dire qu'il fallait une réforme. Mais là, par contre, ce qui est proposé, ça ne va pas du tout. Je pense même que ça aggrave la situation, car oui, il y a 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale, mais encore une fois, nous le répétons, il est là le fond du problème sur la réforme du lycée. C'est que tout le monde n'a pas les mêmes spécialités. Et que surtout, le choix de la spécialité que l'on fait aura des grandes conséquences sur notre accès à l'enseignement supérieur. Et donc finalement, un choix qu'on fera en première, déjà de savoir s'il est le bon ou pas, mais surtout, en fonction du lycée d'où on vient, puisque tout le monde n'a pas accès.
C'est pas déjà un peu le cas, ça ?
Bah, en fait, pas tout à fait, avec les filières S, E, S, L, même si jamais ça l'est dans certains lycées, mais ça vient du même problème. C'est qu'aujourd'hui, on manque de moyens dans l'éducation nationale. Et c'est aussi ça, en fait, la demande des lycéens. On a aussi la demande à propos des 2650 suppressions de postes de professeurs. Comment est-ce qu'on peut faire une réforme du lycée en disant qu'il y aura plus de matières, mais à côté, supprimer 2650 postes de professeurs ? C'est aussi une question de moyens dans l'éducation nationale qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas volonté de mettre en place.
Des professeurs en moins en collège et lycée, malgré une hausse de la démographie de cette classe d'âge, Nathalie Mons, à la rentrée prochaine, non ?
Ah ben là, je me tourne vers Jean-Marc Huard sur l'ensemble de ces chiffres.
En lycée, non, ça sera pas le cas. Hein. On a des effectifs qui, à cette rentrée, d'ailleurs, en lycée, ont un peu diminué. Je crois qu'il faut vraiment séparer les deux systèmes. Je crois que c'est pas l'objet non plus de l'émission, mais on pourrait faire des comparaisons internationales et on montrerait dans les comparaisons internationales que le lycée français représente très clairement une dépense sans doute positive dans la formation des jeunes, mais une dépense très supérieure à ce qu'elle est dans d'autres pays. Et dans ces autres pays, le lycée prépare mieux à la réussite future et notamment dans les études supérieures. Voilà. Vraiment séparer les deux sujets.
Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y aurait un enseignement numérique, c'est ça ?
Oui,
aussi,
numérique et sciences informatiques. C'est un nouveau.
Qui va s'occuper de ça ?
Un nouvel enseignant.
Quels sont les enseignants qui vont ?
Alors, vous avez déjà des enseignants qui, c'est principalement des enseignants de mathématiques, mais pas seulement, qui ont une spécialité aujourd'hui. aujourd'hui, il y a une spécialité hein, qui est informatique et sciences numériques, qui est une spécialité de terminale. Nous étendons cette possibilité, compte tenu de l'évolution des technologies. C'est ça le lycée aussi moderne, hein. C'est pouvoir intégrer les nouvelles technologies. Nous lançons un grand plan de formation des professeurs et nous allons avoir une offre de cette spécialité numérique et sciences informatiques qui va être véritablement très répartie et très, très, très représentée sur le territoire.
On repart au Standard Inter. Cette fois, c'est David qui nous appelle de Seine-et-Marne, Roissy-en-Brie. Bonsoir, David.
Oui, bonsoir.
Vous êtes lycéen ?
Pas du tout, non. Je suis enseignant.
Ah, vous êtes enseignant, pardon. Oh là là. Autant
voilà,
pour moi.
C'est pas grave. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois enseignant. Je voulais vous appeler pour vous dire que le monsieur représentant de l'État, tout à l'heure, a dit qu'il y avait une baisse de mobilisation des lycéens. Et c'est vrai. Et c'est vrai aussi parce que devant les collèges, tous les matins, il y a des forces de police très, très présentes, qui sont très, très, on va dire, impliquées dans leur métier, pour rester correct, et qui fait que il n'y a pas vraiment une parole lycéenne qui puisse exprimer, dans la mesure où il y a pas mal de provocations, il y a pas mal de choses comme ça, et qu'on peut toujours parler de la baisse de la mobilisation. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Moi, je travaille à Aubervilliers et j'habite à Roissy-en-Brie, qui est une petite ville. Et dans cette petite ville, il y a des forces de police très présentes. Voilà. Sur le reste, le monsieur, sur son petit topo sur le numérique, vu que je suis un peu initiateur du numérique depuis les années 93-14, voilà, en gros, c'est vraiment du pipeau, cette histoire du numérique. Je travaille avec quelqu'un qui s'appelle des Irunes, des gens qui sont référents numériques et qui voient à quel point c'est vraiment du pipeau cette histoire.
On voilà. Va. Merci David. Merci beaucoup. On va laisser Jean-Marc Huard vous répondre peut-être.
Oui, alors je connais bien Roissy-en-Brie parce que c'est la ville où j'ai fait mes études. C'est le hasard. Je crois que vraiment il faut rendre hommage aussi aux forces de l'ordre parce que l'objectif des forces de l'ordre c'est vraiment, je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, sur protéger les personnes et en premier lieu protéger les jeunes. Il faut rappeler que bloquer un lycée et puis avoir des modalités de manifestation violentes sont deux éléments totalement dans l'illégalité. On ne peut pas bloquer un lycée, on ne peut pas aller sur une manifestation violente. Et donc les forces de l'ordre sont effectivement mobilisées depuis plusieurs jours et véritablement je crois qu'il faut leur rendre hommage.
Louis Boyard de l'UNL, sur cette question de la violence, il y a effectivement une présence policière importante. Il y a aussi des casseurs qui viennent dans les établissements. Il y a des soucis de ce côté-là.
Oui, moi j'ai eu le témoignage d'une lycéenne du 93 qui avait organisé un blocus et des éléments extérieurs étaient venus pour... c'est là où, il me semble, la porte du lycée avait pris feu. Après, c'est ce qui a été décrit, c'est vrai. Aujourd'hui, on a une répression devant les lycées. Vous disiez, bloquer un lycée est-il légal ? Je pense que débloquer un lycée à tir de flashball et de lacrymogène... ça aussi, ça déborde de la légalité quand il s'agit de tirer au visage des lycéens. La lycéenne de Grenoble qui a été défigurée suite à un tir de flashball pourra vous en témoigner. Et ensuite, il y a autre chose. Vous rendez hommage aux forces de l'ordre, c'est très bien. Le plus grand hommage que vous pouvez leur faire, c'est tout simplement de créer un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions qui existent, c'est vrai, mais c'est vous qui les avez créées en n'écoutant pas les revendications des lycéens, que là, vous tentez encore une fois de contourner. Donc, le grand et leur hommage, acceptez les revendications.
Louis Boyard, je rajoute quand même aussi une question pour vous. C'est quelqu'un qui n'a pas souhaité passer à l'antenne, qui nous a envoyé ce message et qui dit mais il y a aussi des élèves qui ont envie d'aller en cours et qui en ont marre des blocages.
Non mais tout à fait. D'ailleurs,
ils sont majoritaires.
Ça par contre c'est à revoir parce qu'il y a des assemblées générales qui se font dans les lycées que vous nous autorisez à les faire parce que c'est pas non plus. On nous laisse pas toujours les faire alors que normalement on devrait avoir le droit. C'est voté en assemblée générale et d'ailleurs la plupart des lycéens qui aujourd'hui sont en manifestation malgré les clichés ils ont envie d'aller en cours parce qu'ils comprennent que aussi ils auront Parcoursup à la fin. Mais aujourd'hui quand on est lycéen le seul moyen qu'on a de pouvoir porter des revendications et de se faire entendre, c'est le blocage. On n'a pas le droit de vote, on n'a aucun autre moyen de se faire entendre. On est contraint de le faire, donc on le fait.
Je voudrais revenir sur le dialogue quand même, hein, parce que la réforme du lycée, elle a été construite en travaillant toute l'année avec les lycéens, avec le Conseil national de la vie lycéenne, mais aussi en consultant très largement les lycéens. 40 000 lycéens ont répondu à l'enquête et se sont exprimés sur une structure qui est la structure qui a été choisie et arrêtée.
Mais s'il y a ce mouvement, monsieur Huard, c'est quand même qu'il y a un souci et qu'il y a des gens qui sont inquiets. On a entendu, notamment dans les zones rurales.
Il faut faire un effort d'explication, il faut faire un effort d'accompagnement des élèves. Et je crois que l'enjeu essentiel de la réforme, comme l'enjeu aussi de tout ce que nous voulons faire pour valoriser la voie professionnelle, c'est un meilleur accompagnement des élèves. On l'avait vu il y a deux ans avec ce qui s'était passé sur la plateforme APB. Nous avons renforcé l'accompagnement des élèves en classe de terminale. Là, nous dégageons 54 heures année en seconde, en première, en terminale pour avoir un accompagnement renforcé de chaque élève de nos lycées.
Nathalie Mons.
Oui, je crois que sur ce qu'il faut faire finalement par rapport à cette réforme du lycée, on peut aussi avoir des idées en regardant comment ça a été fait à l'étranger. Hein. Alors, c'est vrai que la France est quand même un des derniers pays à avoir gardé ces grandes filières dans l'enseignement en général. Et depuis une quinzaine d'années, on va vers finalement des formules un peu plus à la carte dans un ensemble de pays. Alors, plus ou moins à la carte, c'est-à-dire que les pays qui sont allés très très loin dans le choix de plein de spécialités, souvent sont revenus en arrière parce que les lycéens s'y perdent. Et puis surtout, on a du mal à voir vers le chemin sur l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, on voit bien que les deux conditions pour que fonctionnent des réformes de ce type qui partent au début de l'idée qu'il faut apporter davantage de choix, il y a deux conditions. Un bon accompagnement finalement des lycéens, sinon ça crée des inégalités sociales entre les lycéens, ceux qui connaissent le système et puis ceux qui le connaissent moins. Et puis la deuxième condition qui est aussi fondamentale, c'est de pouvoir envoyer très clairement un tracé, un chemin par rapport à l'enseignement supérieur. Vous avez envie d'aller à tel endroit dans l'enseignement supérieur, ça veut dire qu'il va falloir faire tel choix à partir de la première. Et ça, je crois que ça doit se mettre en place, je crois, à partir de janvier. C'est un élément qui est évidemment central pour sécuriser et faire baisser le stress. Parce que les gens doivent savoir, je choisis telle spécialité pour aller après dans quelle filière dans le supérieur.
Si vous me permettez, on va prendre Alain qui nous attend depuis un petit moment au Standard de France Inter. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir. Merci de me permettre d'intervenir. C'est sur un tout autre plan. C'est à propos du service national, nouvelle formule telle que le veut le président.
Alors, je pense le service national universel, c'est ça, qui fait partie des revendications des lycéens, de l'UNL
voilà,
en tout cas.
Voilà. Alors, je pense que là, l'exécutif s'embarque dans une histoire qui ressemble beaucoup aux 80 km/h qui ont eu des conséquences que l'on connaît, qui ont été un facteur d'irritation. Donc, imposer top-down ce service national universel aux lycéens, aux jeunes, qui n'en veulent pas, ils l'ont déjà vu, ça risque de faire d'être une sorte de chiffon rouge et certainement inutile dans les circonstances actuelles.
Merci Alain, je suis obligée de vous couper parce qu'il est déjà 19h55, figurez-vous, et je voudrais bien que nos invités vous répondent. On a compris que vous étiez plus pour le moins dubitatif quant à ce service national universel. Louis Boyard, pourquoi vous protestez contre ce service national universel?
Pour deux choses. Déjà, pour le point très concret, c'est-à-dire qu'on a quand même supprimé 2650 postes de professeurs, qu'on nous offre pas toutes les spécialités, qu'on veut pas ouvrir des places à l'université, mais à côté, on a les moyens pour déboucher des milliards et des milliards dans un service national universel dont on ne veut pas pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut paraître être très capricieux, mais c'est sur le temps des vacances. Il y a des lycéens qui travaillent pendant les vacances ou qui voient leur famille qu'ils ne peuvent pas voir, par exemple quand il y a des familles divorcées. Et aussi parce que le SNU, le service national universel, il a vocation à faire la mixité sociale et la citoyenneté. Sauf que la mixité sociale et la citoyenneté, c'est à l'école de l'affaire, comme on l'avait dit, comme ça avait été créé en 1882. Et donc là, vous êtes en train de donner la responsabilité de faire la mixité sociale de la citoyenneté à un service qui normalement ne devrait pas le faire. Si jamais vous voulez faire de la mixité sociale, mettez les spécialités et remixez la carte scolaire. Si vous voulez faire de la citoyenneté, remettez de l'EMC ou en tout cas faites une école citoyenne et pas juste une école qui permette le débouché à l'emploi comme c'est le sens depuis un an et demi avec vos réformes.
Jean-Marc Huard.
On a de l'enseignement moral et civique dans le nouveau lycée de manière très 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 claire. Les aspects généraux effectivement du service national universel ont été présenté.
On c'est surtout que c'était une promesse d'Emmanuel Macron et qu'il se dit qu'il faut, voilà, il faut, passer, faut l'appliquer, quoi. Voilà.
Dans une démocratie, on applique effectivement les éléments de programme de celui qui a été élu. Et on est actuellement en train de définir les modalités concrètes. Donc les choses ne sont pas encore achevées.
Nathalie Mons, sur ce service national universel, vous qui regardez notamment à l'étranger.
Oui, c'est un point important. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire a fait, il y a à peine 3 mois, toute une enquête sur l'engagement des jeunes. On se rend compte que, contrairement à plein d'idées reçues, les jeunes sont très engagés, et notamment déjà dans le système associatif. Il y a près de 40% des lycéens qui ont déjà une activité, un bénévole dans une association. On se rend compte aussi que la France, dans son école française, soutient assez peu finalement ces initiatives. Donc oui, pour un développement des initiatives qui permettent aux jeunes d'être beaucoup plus engagés. Sur la dimension obligatoire, il faudrait pas évidemment que l'objectif soit contre-productif, puisque être bénévole, c'est choisir de s'engager. Et puis, il faut regarder le coût. Ça, je pense que c'est un élément qui, aujourd'hui, dans un cadre budgétaire contraint, est extrêmement important. Voilà. Donc, il faut nous soutenir l'engagement bénévole des jeunes, mais de plein de façons, peut-être le CNU, mais peut-être aussi plein d'autres choses qui nécessitent, qui s'appuient sur des engagements individuels.
Alors, cette émission est presque terminée. On a parlé de la réforme du lycée, on a parlé du service national universel, on a parlé des effectifs des enseignants. Il y a deux choses dont on n'a pas parlé, c'est la réforme du bac et Parcoursup. Ça fait partie, Louis Boyard, aussi des raisons de ces mouvements.
Oui, parce que dans la réforme du bac, déjà, il y a 10% de contrôle continu qui seront faits sur les bulletins, mais il faut quand même rappeler qu'un 10 de moyenne à Henri IV, grand lycée parisien, et un 10 de moyenne dans un lycée du 93, ça n'a pas la même valeur, et que donc du coup, notre note du bac ne sera plus la même en fonction du lycée, et on aura un bac par lycée. Et aussi, par rapport à la sélection à l'université, on s'est quand même retrouvé avec 120 000 lycéens qui ont été contraints d'aller dans le privé, 50 000 lycéens qui sont inactifs et qui ont déserté la plateforme. Donc oui, on s'oppose à Parcoursup et on demande l'ouverture de place à l'université.
Et ça veut dire qu'en attendant, vous continuez à appeler à des opérations
même
de blocage.
Même après les vacances, malgré qu'ils aient joué la course contre la montre, ne vous inquiétez pas, on se retrouve à la rentrée.
Et la semaine prochaine, il va y avoir encore
oui, tout à fait, il y a des dates qui vont sortir.
Des blocages. Jean-Marc,
je peux dire un mot sur
Jean-Marc Huard.
Sur le baccalauréat quand même.
Vous avez quoi, 30 secondes?
Oui, on est sur un baccalauréat plus juste. Les lycéens protestent depuis toujours sur ce qu'ils appellent le bachotage, c'est-à-dire le fait de passer des épreuves uniquement et que leur examen repose finalement sur une semaine de l'année. Là, ça ne sera pas le cas. On prendra en compte l'assiduité et la régularité du travail.
Nathalie Mons, sur le bac, 10 secondes.
Sur le bac, il faut vraiment le garder comme un diplôme national et faire une expérimentation pour pouvoir déjà voir les effets d'un bac nouvelle mouture.
Jean-Marc Huard, une toute dernière question. Les lycées parisiens seront fermés demain? C'est ceux qui sont ouverts normalement, c'est ça, en raison du mouvement des gilets jaunes.
Oui, je peux pas
pour des raisons de sécurité.
Oui, c'est le cas.
Je confirme. C'est la mère de famille qui confirme.
Voilà, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure par l'agence France Presse. Merci beaucoup Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement, d'être venu. Nathalie Mons, Louis Boyard, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Marie-Annick Rimbaud, Irène Menahem. Merci aussi à nos techniciens ce soir, nos standardistes.